الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد.
On continue sur l'explication de la manière de faire le pèlerinage et ses règles. دخول مكة. Quand on rentre à Mecca, il y a des sunnahs à respecter si on peut les faire. À l'époque, il dormait à un endroit qui s'appelle Zitoa, qui est à peu près vers l'Azizir. Le prophète, alayhi salam, il allait là-bas, il dormait là-bas, il se reposait bien, il faisait le ghusl, pas l'ihram, hein, juste le ghusl. Il se lave et il aimait rentrer dans Mecca, dans Masjid al-Haram, en journée. Donc on rentre, alhamdulillah, c'est bien de rentrer d'un endroit qui s'appelle Thani al-Ulia, de rentrer avec le pied droit, bien sûr, dans la mosquée, de faire la dua.
Après être rentré à la mosquée, s'il veut, il peut se mettre de côté, lever les mains et faire dua. Le fait de lever les mains et faire dua a été rapporté par Abdullah ibn Abbas, c'est-à-dire qu'il l'a fait lui-même. Et s'il veut dire ce qui a été rapporté de Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, Allahumma anta salam, wa minka salam, fa hayyina rabbana bis salam, il peut le faire s'il veut.
Après ça, on vient faire tawaf al-Qudum. Tawaf al-Qudum, dès qu'on arrive devant la pierre noire, on dénude son bras droit, la Kaaba doit être sur notre gauche, on dit Allahu Akbar en levant la main et on commence normal à trottiner 3 tours. Pour la femme qui a ses menstrues, dès qu'elle arrive à Mecca ou alors quand elle a fait l'ihram, ça y est, elle était dans sa période de menstrues. Elle fait le ghusl, elle fait l'ihram comme tout le monde. Labbayk Allahumma Umra. Si elle arrive à être pure avant de faire le premier tawaf al-Qudum et la Umra, Alhamdulillah. Si elle ne peut pas, elle reste en ihram jusqu'à qu'elle soit pure. C'est-à-dire qu'elle doit attendre. Quand elle est pure, elle fait le ghusl, elle va faire sa umrah. Walakin, si elle est impure jusqu'au jour du hajj, yom arafa, parce que si c'est le 8e jour, il n'y a pas de problème, elle peut aller faire la umrah, faire le tahallul, attendre, et après se refaire l'ihram pour aller à Mina ou même pour aller à Arafat. Mais si ça retombe jusqu'au jour du hajj, c'est-à-dire jusqu'au jour de Arafat, alors elle reste en ihram, elle n'enlève pas son ihram, elle va à Arafat, elle fait tout le manasik, tous les manasik avec le hujjaj, sauf que son hajj, au lieu d'être un tamattu, elle va se transformer en qiran. C'est-à-dire elle va coller le hajj et la umra ensemble. Le tawaf qu'elle va faire après, à la fin, avec le sa'i, ça va être le tawaf et le sa'i pour le hajj, et la umra wa hiya ma'dura, elle a une excuse. Elle n'a pas laissé tawaf et le qudum sans excuse valable. Donc elle fera comme ça. Non. Ceux qui n'ont pas ce problème-là, elles font comme tout le monde. Il y a divergence entre les savants. Est-ce que c'est obligatoire d'avoir le wudu pour faire tawaf? Ou sahih, comme il a dit Cheikh Islam ibn Taymiyyah, comme aussi le madhab de certains ulama min al-Qudama et de Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah. Walakin al-ahwat, le plus sûr, c'est d'avoir le wudu. Car il y a des savants qui disent que ce n'est pas valable sans le wudu. Et c'est une sunnah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il est rentré, il a fait le wudu, après il a fait le tawaf. Donc au minimum, c'est mieux d'avoir le wudu, par sécurité. Naam. Si quelqu'un perd le wudu pendant le tawaf, il va à Zamzam faire le wudu, il revient à l'endroit où il était, il reprend. Il n'y a pas de mal. Faire une petite coupure dans le tawaf, il n'y a pas de mal. Par exemple, s'arrêter un instant, se mettre à l'ombre un instant, boire un peu d'eau. Mais tu dois revenir à l'endroit exact où tu étais, ou un peu avant. Walakin, si la coupure elle est grande, par exemple tu vas à l'hôtel, tu sors, tu vas aux toilettes, tu fais le wudu, tu reviens, là, tu reprends les 7 tours du début. Bien sûr, c'est obligatoire de couvrir sa nudité pendant le tawaf. Parmi les obligations de tawaf, de faire le tawaf à la sorte en dehors de la maison. Pourquoi je dis ça? Parce que Hijr Ismail, l'intérieur de Hijr Ismail, ça fait partie de la Kaaba. Celui en faisant tawaf qui tourne, alors il rentre pour faire un raccourci, il rentre à l'intérieur et il tourne par là-bas, son tour là qu'il vient de faire, il est invalide. Car Hijr Ismail, ça fait partie de la Kaaba. Sauf que Quraysh, ils n'avaient pas assez d'argent pour construire la Kaaba comme il faut. Ils n'avaient que de l'argent haram. Donc ils ont dit, on ne construit pas. Ils ont construit qu'avec l'argent halal. Il ne restait pas assez pour faire toute la Kaaba à la Qawa'idi Ibrahim. Parmi les conditions de tawaf, il doit commencer son tawaf de la pierre noire et finir à la pierre noire. Hajar al-Aswad. Ça, c'est chart. C'est une condition. Autre condition, il faut que la maison elle soit à ta gauche. Si tu fais moins de 7 tours, c'est pas valable. 7 tours, c'est le minimum à faire. Tu fais pas non plus plus. Sinon, tu vas rajouter quelque chose dans l'islam. Si tu as un doute, ah, j'ai fait 6 tours ou 7 tours. Si tu réfléchis, tu dis, ah non, j'en suis bien à 6. Tu construis sur ce que tu penses être juste. Mais si tu ne sais pas du tout, tu te dis, bon, j'en ai fait au moins sur 6. Donc, je rajoute 1. Le fait que les 7 tours ils soient suivis l'un après l'autre, c'est une condition. Il n'y a pas de mal de se reposer un peu comme Sahaba radiallahu anhu il faisait. Quand il faisait trop chaud, il allait se mettre à l'ombre de la Kaaba. Il se reposait un petit peu à l'ombre de la Kaaba. Après, il se relevait, il revenait et il reprenait son tour. Ou bien pour boire un petit peu. Ou bien si tu as perdu de l'eau, tu vas juste vite rapidement à Zemzem faire l'eau sans sortir aux toilettes, etc. Tu construis sur quoi tu étais auparavant. Tu ne reprends pas de nouveau tous les tours. Sauf si la coupure elle est trop grande. C'est-à-dire que tu es sorti de le Masjid al-Haram, tu es allongé, tu as dormi, je ne sais pas ce que tu as fait, même dans le Masjid. Ou bien tu es sorti aux toilettes, à l'hôtel, tu es revenu, tu es parti manger. Là tu es obligé de reprendre les 7 tours au début. Autre chose, s'il y a une obligation, tu t'arrêtes, tu fais ta farida avec le groupe. Il n'y a pas de mal ça dans le suivi. Mais tu ne commences pas de rekat avant dhuhr, 4 rekat après dhuhr. Là, la prière mortuaire, fi khilaf. Il y en a qui disent que c'est permis. Le mieux, c'est de le laisser car ce n'est pas obligatoire. Wadih ? Non. Maintenant, on va parler des choses qui sont sunnah dans le tawaf. La yajib, ce n'est pas obligatoire. Celui qui fait, il sera récompensé. Celui qui ne le fait pas, laisse alinché. La seule chose, c'est qu'il n'aura pas la même récompense que celui qui fait ce sunnah-là. Awalan, de faire le wudu avant de faire tawaf. Thaniyan al-tiba' lirijali faqat. De dénuder son bras droit. Dans tawaf al-kudum. Le fait de faire raml dans les trois premiers, dans tawaf al-kudum. Le fait de toucher la pierre noire pour celui qui en a la possibilité. Celui qui ne peut pas toucher la pierre noire, il montre de sa main de loin et il dit Allahu Akbar. C'est une sunnah de faire sujoud sur la pierre noire, celui qui peut. Le fait de toucher Rukn al-Yamani, c'est le coin juste avant la pierre noire. Sans l'embrasser. Sans embrasser ta main. Juste tu le touches si tu peux. S'il y a trop de monde, tu passes. Kadalika, le fait de faire dua entre Rukn al-Yamani et la pierre noire, c'est une sunna. De faire cette dua, Rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina adhab an-nar. Ça fait partie de la sunna de derrière Maqam Ibrahim, n'importe où dans la mosquée. N'importe où, pas obligé derrière, collé. Plus loin, de faire deux rak'at et de dire, quand tu arrives à Maqam Ibrahim, وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. Les deux rak'at derrière Maqam Ibrahim, tu peux les faire à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Il n'y a pas un moment où c'est interdit. N'importe quel moment. Quand tu finis ton tawaf, tu vas te faire rak'ater, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, ô vous les fils de Abd Manaf, n'empêchez pas quelqu'un qui a fait tawaf de cette maison, de n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, de prier deux rak'at. Qu'est-ce qu'on lit dans ces rak'atés? Après le Fatiha, qu'il y a eu le kafiru. Et la deuxième rak'a, après le Fatiha, qu'il y a eu ahad. Intabihu ikhwat al-iman. Il n'est pas permis de passer devant quelqu'un qui prie, même dans la mosquée sacrée. Sauf s'il est au milieu de la route. Personne ne peut passer. Là, tu passes. C'est de sa faute. Mais sinon, il faut patienter. Tu passes par derrière. Et toi, si tu veux faire deux rak'at, tu t'approches d'une sutra. Tu ne fais pas de rak'at au milieu de la mosquée comme ça. Un nafila, tu ne la fais pas au milieu de la route comme ça. Après le tawaf, mina sunna, c'est quoi? De boire de l'eau de zamzam et de se renverser de l'eau de zamzam sur sa tête. La différence entre nous et les hypocrites, c'est que le croyant, il se remplit les côtes de zamzam. Il y a un endroit entre le Hajar al-Aswad et la porte de la Kaaba, on voit des gens qui se collent comme ça pour faire dua. Ça s'appelle multazam. Est-ce que c'est, on le fait ou non? Certains ulama voient que non parce que le hadith qui parle de ça est da'if. D'autres voient qu'il est sahih. المهم الباب واسع في هذا الامر لان الديفيرجونس اللي باتو سور الدليل دونك لي علماء المحدثون كي فواك سي لي صحيح سو حديث كوم شيخ الالباني اي دوتر اي ديت كو تو لو في سي اون سنه دوتر فواك سو حديث ني با صحيح اي ديت تو لو في با دونك سي تو بو لو فير ايفيت دو لو فير بوندون تون طواف دو الحج كون تو فيندرا فير طواف ان دوور دو سا دون تو لي زوت طواف كو تو فا فير تو لي جور ان شاء الله لا تو فا تو فا تو كولي سي كوا لا سنه كولي سا جو دروات سا مان سا بوترين et ses avant-bras sur la Kaaba et de faire dua, comme ça. Vous allez voir, une fois que vous allez vous coller, c'est comme un aimant. Vous ne voulez plus sortir. Ce n'est pas permis aux femmes d'aller se coller aux hommes de faire ça. On a vu des femmes, subhanallah, elles vont essayer de faire l'iltizam. Pour arriver là-bas, elle a collé 1000 hommes. Donc la femme, ce n'est pas permis. Ni elle s'approche de la pierre noire, ni du multazam, ni de la Kaaba. Elle reste loin. Elle ne se colle pas aux hommes. On vous a déjà donné le conseil, les hommes qui vont avec les femmes, d'où l'importance d'aller avec un mahram et l'obligation. Il prend sa femme devant lui, comme ça, il la tient. Pour pas qu'elle soit touchée à gauche, à droite. Parce que vous allez voir, ça sert. Pour prendre sa femme comme ça devant, et faites attention à votre argent, vos passeports, vos affaires. Non. Il est permis dans le tawaf de parler. Le mieux, c'est que tu sois pas occupé avec les paroles. Mais c'est permis de parler pour faire surtout l'ifta, de faire une fatwa. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a vu deux personnes, ils étaient attachés par une corde. Il a tiré leur corde. Il a dit, si tu veux aller avec lui, tiens-lui la main. Donc il n'y a pas de mal. Mais le mieux, tu t'occupes de faire du'a, de faire le zikr. C'est pas le moment de commencer à parler avec ton copain. C'est une ibadah. Tadhkurullah, tad'u. Non. Il est permis de faire le tawaf rakiban. Si tu es capable de le faire à pied, mais que tu as envie de le faire sur une monture, c'est permis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a déjà fait. Non. Maintenant qu'on a parlé de ça, on va parler de Safa ou al-Marwa. C'était deux monticules qui étaient à côté de la Kaaba. C'est l'histoire de la femme d'Ibrahim Hajar qui est montée entre Safa et le Marwa. Et Allah tabarak wa ta'ala, il a aimé ces pas-là et il a voulu les rendre éternels pour tous les Hujjaj. Et Allah tabarak wa ta'ala, il nous a demandé de faire ces pas-là comme elle a fait, radiyallahu anha. C'est un pilier dans le Hajj. Il y a une différence. Al-Mutamattir, c'est celui qui fait la Umrah. Après, il n'est plus en état de sacralisation. Puis après, il re-rentre en état d'Ihram pour le Hajj. Ça, c'est le Tamattu. Donc, Al-Mutamattir, il aura deux tawaf et deux sa'y entre Safa et le Marwa. Son premier, c'est pour la Umrah. Il fait tawaf et sa'y entre Safa et le Marwa. Et son deuxième, c'est pour le Hajj. Alors que le Qarin, comme la femme, on a dit par exemple, qui n'avait pas réussi à être pure pour faire la Umrah à temps avant de rentrer dans le Hajj, elle, elle aura que quoi? Normalement, elle aurait deux tawaf et un sa'i. Mais là, le premier tawaf, le qudoum, yaskutu anha. Elle ne le fait pas parce qu'elle ne peut pas le faire, li'ajziha. Mais elle aura au moins un tawaf et un sa'i entre Safa et le Marwa. Non. Si quelqu'un fait sa'i bien le Safa ou le Marwa avant le tawaf, est-ce que c'est sahih? Non. Après son tawaf, il va refaire un sa'i bien le Safa ou le Marwa. Parce que sa'i, pour qu'il soit valable, il faut qu'il soit après le tawaf, un tawaf sahih autour de la Kaaba. Maintenant, on va parler des conditions pour que ton sa'i, tes allers-retours entre Safa et le Marwa, soient valides. Premièrement, qu'il soit après un tawaf autour de la Kaaba, valide. Deuxièmement, qu'il soit de 7. Naam. Que tu commences à Safa et que tu finisses à le Marwa. Et la quatrième condition, les allers-retours, ils soient dans l'endroit de le Mas'a. Si quelqu'un, par exemple, il fait sa'i de Safa ou le Marwa à un autre endroit. Est-ce que c'est valide? Non. Ce n'est pas obligatoire que ce soit suivi dans sa'i. Par exemple, quelqu'un il fait sa'i entre Safa et le Marwa. Il a besoin d'aller aux toilettes. Il va à l'hôtel. Il va aux toilettes. Il fait le wudu. Il revient. Il n'a pas besoin de recommencer sa'i du début. Il le recommence de l'endroit où il a arrêté. Il continue. C'est recommandé, c'est mieux bien sûr, mais ce n'est pas obligatoire. Autre chose. Ce n'est pas obligatoire ni d'avoir le wudu, ni même d'avoir les grandes ablutions. Par exemple, je donne l'exemple. Une femme, elle a fait le tawaf, juste après le tawaf autour de la Kaaba, arrivée à Safa, ça y est, ses menstrues, elles sont arrivées. Elle fait le sa'i entre Safa et le Marwa, et son tawaf et son sa'i, ils sont sahih. Non. Maintenant, on va parler des sunnahs. S'il peut être avec les ablutions, c'est mieux. S'il peut, avant d'aller faire ça, il va toucher la pierre noire. Moustahil, mais c'est une sunna. S'il peut le faire, il le fait. Quand il arrive à côté de Safa, il dit « Inna Safa wal Marwata min sha'irillah ». Après, il dit « Abda'u bima bada Allahu bih ». C'est bien de les apprendre. Comme ça, vous gagnez, inshallah, les récompenses. Vous faites votre hajj comme le hajj du prophète, alayhi salatu wasalam. Quand il arrive à Safa, il se met vers la Kaaba et il fait la dua en levant les mains. « La ilaha illallah wahdahu la sharika lah ». له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده نصر عبده وهزم الأحزاب وحده. Il dit ça une fois, après il fait dua, dua, dua. Il recommence une deuxième fois la même dua là, la ilaha illallah. Après il refait encore dua, il demande ce qu'il veut et il le fait une troisième fois. Il fait ça à Safa et il fait ça aussi à Marwa. Et il marche jusqu'à Marwa à pied. Celui qui veut le faire avec un chariot, son sa'i est sahih. S'il est trop fatigué, il veut payer un chariot pour qu'il l'emmène, il paye le chariot, il l'emmène. À la différence, c'est que le chariot, il ne va pas t'attendre pour que tu fasses dua. Il va dire, faites dua al-hajj en courant. Parmi les sunnahs, donc, quand on est entre les deux lumières vertes, on court, sauf les femmes. Kadhalika, les duas que tu peux faire entre Safa et Marwa, ça a été rapporté d'Abdullah ibn Mas'ud et de certains sahaba, radiallahu anhum, qui disaient, Rabbi ghfir warham, innaka anta al-azul akram. Après ça, ou bien il se rase toute la tête, ou bien il se taille toute la tête. On a dit que pour ceux qui sont proches du Hajj, c'est mieux de tailler tout plutôt que de raser tout. Il n'y a pas, tu coupes un peu des morceaux à gauche à droite. C'est pas valide. Une fois qu'on a fait ça, le khuruj ila Mina, d'y aller le matin, de faire là-bas un dhuhr l'Asr, le Maghrib, l'Isha, de dormir là-bas la nuit, dans la fin de matinée pour aller là-bas en Dhuhr, de faire Talbiya, de reprendre Talbiya, Labbayk Allahumma Labbayk, et arriver à Arafat, après avoir fait Dhuhr et l'Asr, Jam'an wa Qasran, l'imam, il fait une khutbah, et après ça, on est donc à Arafat, qui est le quatrième pilier des piliers du Hajj. Le fait de rester à Arafat, il faut que ce soit au moins après Dhuhr. Celui qui, par exemple, il est resté à Arafat le matin, après il est parti, il n'a pas de Hajj. S'il est parti en journée de Arafat, il est parti à Muzdalifa ou il est parti où il veut, il est resté ne serait-ce qu'un instant après Dhuhr, il a fait l'obligation, le pilier, mais il devra égorger une bête, car la sunna c'est de rester jusqu'à Al-Maghrib. C'est obligatoire normalement de rester une partie du jour et une partie de la nuit. Celui qui arrive à Arafat, après minuit, le 9e jour de Dhul-Hijjah, c'est-à-dire la 10e nuit, Laylatul Eid, au moment où il devrait être à Muzdalifa normalement, une heure avant le Fajr, même une demi-heure, même quelques instants avant le Fajr, le fait de rester à Arafat, ce sera sahih. Mais la sunna, c'est quoi? C'est d'y aller après Dhuhr, de faire Dhuhr et l'Asr, de rester là-bas jusqu'au coucher du soleil, et après le Maghrib, de partir à Muzdalifa. Les sunna et les politesses qui sont liées, le stationnement à Arafat. Premièrement, à Arafat, il y a un endroit qui s'appelle Jabal al-Rahma, la montagne al-Rahma. Ceux qui croient qu'il faut monter en haut de la montagne, c'est des ignorants. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, où est-ce qu'il se tenait? En bas de la montagne. Celui qui peut, il va en bas de la montagne, là où il y a les pierres, il fait du'a là-bas. C'est une sunna. Celui qui ne se tient pas là-bas, tout Arafat, c'est un endroit où tu peux te tenir. Sous ta tente, n'importe où. Ça, c'est la personne qui est seule, qui se débrouille, qui connaît l'endroit, il sait y aller, il sait revenir facilement. Non. Kadhalika min as-sunna, de lever les mains bien haut et de faire du'a face à la qibla, bien sûr. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit khayru du'a, du'a arafa, wa khayru ma kultu ana wa nabiyuna min qabli, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la meilleure du'a c'est la du'a du jour de Arafat, et la meilleure chose que j'ai dit moi et les prophètes avant moi c'est la ilaha illa Allah. وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. Aussi, si quand on bouge de Arafat, on part de Arafat pour aller à Muzdalifa, c'est bien de reprendre le talbiya aussi à chaque déplacement jusqu'à Muzdalifa, comme ça a été rapporté dans le hadith sahih. Al Hajj, celui qui est au pèlerinage, il ne jeûne pas le jour de Arafat. S'il jeûne, hajjuhu sahih, ولكن هو il a fait le contraire de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On peut faire talbiya, c'est une sunna. Après avoir fait dhuhr l'asr, yallah, quelqu'un n'arrive pas à faire dua, il va faire du'a un quart d'heure, 20 minutes peut-être. Alors qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire talbiya. Comme ça a été rapporté des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Arafat. Après le coucher du soleil, il faut descendre à Muzdalifa bisakina en faisant un talbiya. Le fait de dormir à Muzdalifa jusqu'à l'fajr, c'est une obligation mais ce n'est pas un rukn. Tout le monde doit rester à Muzdalifa il est l'fajr. Il a été permis seulement aux faibles parmi les femmes, c'est-à-dire pas toutes les femmes et les enfants et les personnes âgées faibles de partir après la moitié de la nuit de Muzdalifa vers Mina. Et qui a le droit de partir avec eux? Maharimuhum ay ma'a kulli wahid mahram faqat. Certains ulama, ils ont dit que toute la jama'a, toute la rihla, elle peut partir ensemble. Walakin, vaut mieux ne pas s'amuser avec le hajj. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui a prié avec nous ici, c'est-à-dire à Muzdalifa al-Fajr, et qui est resté avec nous jusqu'à qu'on parte, et qui est resté avant ça à Arafat, de nuit ou de jour, alors il a complété son hajj. Et ses rites sont terminés. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné l'importance de faire salat al-fajr à Muzdalifa. Après le fajr, on fait un peu d'ikrullah subhanahu wa ta'ala, et quand le soleil commence à devenir jaune, on va vers Mina, les Rami, Jamratul Aqaba. Qu'est-ce qu'on fait quand on arrive à Muzdalifa? On fait le maghrib et l'isha, jam'an wa qasran. La sunna c'est de dormir directement après jusqu'à le fajr. Il n'y a pas de prière de nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette nuit-là, après l'Aïcha, elle a dormi direct, jusqu'au matin. Attention, si on n'est pas arrivé à Muzdalifa avant la moitié de la nuit, il faut faire le maghrib l'Aïcha là où on est. Parce que la moitié de la nuit, c'est la fin de l'heure de l'Aïcha. On n'a pas le droit de retarder l'Aïcha après la moitié de la nuit. Après, on arrive à Muzdalifa. Il n'y a pas de mal en cela. Donc, les sunna à Muzdalifa, c'est de faire salat le maghrib, comme on a dit, jama'a ta'khir. De faire un adhan et deux iqama, de ne pas faire de nafila entre les deux prières et même après salat l'Isha, de dormir jusqu'au Fajr, de faire Salat al-Fajr au début de l'heure, avec un adhan et iqama, et de rester dans Mash'ar al-Haram. Mash'ar al-Haram, il y a ikhtilaf entre les ulama. Il y en a qui disent que c'est une montagne à Muzdalifa, un coin, où le prophète Sassim il a été, il a fait du'a. Il y en a d'autres qui disent tout Muzdalifa, c'est Mash'ar al-Haram. À la kulli hal, on reste à Muzdalifa, au moins jusqu'à que le soleil devienne jaune. Après Salat al-Fajr, on reste assis, on fait dhikrullah, et on fait du'a, jusqu'à avant le lever du soleil. Dès qu'il commence à faire jaune dans le ciel, on sort de Muzdalifa pour aller vers Mina. C'est le jour où il y a le plus d'action du Hajj en même temps. Qu'est-ce qu'on va faire? On part pour jeter Jamratul Aqaba. Jamratul Aqaba, quand on arrive de Muzdalifa, on va passer la première, on ne va pas la jeter. On va passer la deuxième, on ne va pas la jeter. On va arriver à la dernière, qui est la plus proche de Mecca, c'est celle-là, Jamratul Aqaba. On va la jeter de cette pierre. À chaque fois qu'on jette, on dit Allahu Akbar. Tayyib. D'où on ramasse les pierres? Sur le chemin, on y allant. Et on peut les prendre où on veut. Tu peux même les prendre à l'endroit où ils les jettent, par terre. Sauf que tu évites de prendre ceux qui sont dans le haoum. Certains ulama, ils voient que c'est détestable de prendre des pierres avec lesquelles on a déjà touché la stèle, ou qui sont tombées dans le bassin. Mais sinon, on prend les pierres où on veut. C'est pas obligé de les prendre à Muzdalifa. Il n'y a rien qui prouve cela. Wa sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'en chemin, en allant à Al-Jamarat, Al-Abbas, il lui ramassait des pierres sur la route, il lui a donné. Comment elles doivent être ces pierres? Est-ce que c'est Shaitan qui est là-bas? Il y en a, ils croient que c'est Shaitan là-bas. Il va nermi Shaitan. Pourquoi tu fais ça? Iqamatan li dhikrillah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, le rami al-jimar, le jeter les pierres, de faire tawaf, de faire sa'i entre Safa et Marwa, de toucher la pierre noire. Tout ça, c'est iqamatan li dhikrillah, pour évoquer Allah. C'est une épreuve. T'es un abd, t'es un serviteur. Allah, il t'a dit, viens ici, tu viens ici. Assieds-toi là, assieds. Debout là-bas, debout. Touche ici, touche. Jette ici, jette. Embrasse ici, embrasse. Arrête-toi ici, arrête. C'est ça. Allah, il t'éprouve. Vois, est-ce que tu vas faire les choses comme il t'a demandé ou non? Il n'y a pas à chercher la baraka dans la pierre ou non. Nous, on n'adore pas les pierres ni les statues. Cette pierre, elle ne te donne rien. Wallahi l'azim. Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il est arrivé devant le Hajar al-Aswad, devant la pierre noire. Il l'a embrassé. Il lui a dit, wallahi, je sais que tu es une pierre. Tu fais ni du bien ni du mal. Si je n'avais pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne t'aurais jamais embrassé. Pourquoi il l'a fait? Pour suivre la sunna. La baraka, elle est dans l'obéissance d'Allah, dans le tawhid. Dans le fait que tu n'adores que Allah, tu ne lui donnes pas d'associé. La baraka, c'est que tu obéis à Allah et à son prophète. La baraka, c'est pas dans le shirk, c'est pas dans les bid'a. Allah Ta'ala, il n'a jamais rien descendu pour te dire de faire ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, khudhu anni manasikakum. Prenez de moi vos rites. Pourquoi tu fais pas comme il t'a demandé? Pourquoi tu rajoutes des choses? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, man amina amala laysa alayhi amruna fa huwa radd. Celui qui fait un acte dans lequel il n'y a pas notre ordre, il est refusé par Allah. T'es parti jusque là-bas, t'as dépensé ton argent. Là, donc t'es l'a'mal. N'annule pas tes actes avec le shirk. Allah, il dit ça au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Si tu donnes quelconque associé à Allah, tes actes, ils vont être annulés et tu seras parmi les perdants. Alors toi, moi, n'importe qui, on croit qu'on est comme ça, on est sauvés. Même Ibrahim, alayhi salam, il a eu peur du shirk. Il a dit, protège-moi que j'adore les statues, moi et mes enfants. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, du début de sa vie jusqu'à la fin de sa vie, il l'a mis en garde contre le shirk. Ça a été sa première da'wa. Le milieu de sa da'wa et la fin de sa da'wa, c'est de mettre en garde contre le shirk toute sa vie. Alayhi salatu wa salam. Donc, une fois qu'on a jeté de cette pierre, si on pouvait égorger notre bête, on va l'égorger. Après, on va se raser la tête. C'est mieux de se raser que de se tailler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait 2 à 3 fois pour le muhalliqin, ceux qui sont rasés. Et une fois pour le muqassiri, pour ceux qui taillent. Tu rases que la tête. Tu laisses ta barbe tranquille. Si là-bas, pendant l'ihram, t'as pas touché à ta barbe, laisse-la, reviens avec. D'ailleurs, c'est pas permis à un musulman de raser sa barbe, que ce soit pendant l'ihram ou en dehors de l'ihram. C'est permis de jeter les pierres aussi, rakiban, même sur une monture, c'est permis. Est-ce qu'il est permis aux femmes qui sont parties dans la nuit et aux faibles de jeter les pierres dans la nuit ou non? Ça, c'est une question sur laquelle les savants, anciennement et contemporainement, ils ont divergé. Le plus juste, c'est comme Aïcha, elle rapporte, le temps qu'elles partent de Muzdalifa pour arriver à Mina, ils disaient elles arrivaient avec Salat al-Fajr ou après Salat al-Fajr. Donc, normalement, il ne faut pas jeter avant le Fajr. Même pour les faibles, même pour les femmes. Et le dernier moment pour jeter, il faut éviter de dépasser Salat al-Maghrib. Walakin, si tu n'as pas pu, tu n'as pu jeter que après. Il n'y a pas de mal jusqu'à la moitié de la nuit. Car une personne est venue voir le prophète alayhi salatu wassalam. Il a dit, j'ai jeté après l'après-midi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de mal. Abdullah ibn Amar, il a fait la fatwa sur deux femmes qui sont arrivées après dans la nuit pour jeter les pierres. Et il leur a dit qu'elles n'avaient rien à faire, que leur jet, il était sahih. Mais c'est mieux de le jeter avant le maghrib. Ça, c'est pour le dixième jour, quand il vient jeter Jamratul Aqaba. Après, il va, comme on a dit, égorger la bête, ou bien, si quelqu'un égorge pour lui, il va aller se faire raser la tête. Les femmes, elles vont couper juste la taille d'une phalange. Après cela, s'il a le temps d'aller faire tawaf al-ifada et sa'i entre Safa et le Marwa, et revenir avant la nuit, il le fait. Sinon, il reste à Mina et il dort. Et il repartira ou le lendemain matin ou le jour d'après pour faire le tawaf du hajj. C'est comme on a fait pour la Umrah, sauf qu'on ne dénude pas le bras droit et on ne fait pas le raml. La sunna, c'est quand on arrive à Jamrat al-Aqaba, on arrête de faire talbiya. Ça y est, à partir de ce moment-là, on ne dit plus labbaik, Allahumma labbaik, labbaik, la sharika laka, labbaik, inna alhamdu wa ni'mata laka wal mulk, la sharika laka. Ça, on peut le dire dans le chemin de Muzdalifa jusqu'à là-bas. On arrête de le faire quand on jette Jamrat al-Aqaba. De faire takbir, de dire Allahu Akbar à chaque fois qu'on jette une pierre. De le jeter après que le soleil soit levé. Bien que c'est permis de le faire après le fajr, comme on a dit. Non. Et de partir après avoir jeté Jamrat al-Aqaba, de partir directement et de ne pas faire de ha. La sunna, c'est après ça de faire comme on a dit, d'égorger la bête, de se raser la tête et de faire le tawaf. Walakin, si on fait l'un avant l'autre ou après l'autre, la haraj, c'est permis. Même le nahar, j'ai pas parlé du sacrifice, parce que la plupart c'est pas nous qui allons le faire. Ça a été rapporté dans plusieurs hadiths sahih, dans le Bukhari et Muslim, qu'on est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de l'Aïd. Il y en a, il a dit, ya Rasulallah, j'ai fait le tawaf avant de me raser. Il a dit, la haraj, il n'y a pas de mal. L'autre, il a dit, j'ai fait ça avant ça, il a dit, la haraj. Les sahaba, ils ont dit, on ne lui a pas demandé, le jour de l'Aïd, un acte qu'on a devancé l'un après l'autre, sans qu'ils disent, il n'y a pas de mal. Mais la sunna, d'abord jeter Jamrat al-Aqaba, puis égorger sa bête, puis se raser, puis faire le tawaf. Une fois qu'on a jeté Jamrat al-Aqaba, tout est halal pour nous, on peut se doucher, on peut se raser, on peut se parfumer, on peut s'habiller, sauf faire l'acte avec sa femme et la femme avec son mari. Il faut rajouter à ça deux choses. Se raser et faire le tawaf al-ifada, le sa'i entre Safa et Marwa. Une fois qu'on a fait ça, il nous reste quoi? Tu es obligé de dormir à Mina. Tu n'as pas le droit d'aller dormir à l'hôtel à Mecca. Homme et femme. Et le lendemain, si tu n'as pas encore fait tawaf du hajj, tu pars le matin faire ton tawaf, tu reviens. Et après Zawal, après Dhuhr, jusqu'à un peu avant le Maghreb, ou bien, comme on a dit, dans la nuit comme pour l'autre, tu vas pour jeter cette fois les trois stèles. Tu commences par la plus petite, sept pierres. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Après avoir jeté la plus petite, tu te mets sur le côté, tu te mets face à la Mecca, tu fais une longue dua. Puis tu avances, tu vas jeter la moyenne. Tu vas sur le côté encore, tu fais une longue dua. Après avoir jeté la troisième, cette pierre, tu ne fais pas dua, tu pars directement. Quand est-ce qu'on fait ces actions? Le 11e jour de Dhul-Hijja, qui est un jour après l'Eid, obligatoirement. Et le 12e jour de Dhul-Hijja, qui est le deuxième jour après l'Eid, obligatoirement. Si tu veux partir le 12e jour de Dhul-Hijja, tu ne veux pas rester un troisième jour, c'est permis, à condition. Entre Dhuhr et avant le Maghreb, il faut que tu aies jeté tes pierres des trois stèles. Et il faut que tu sois sorti des limites de Mina avant le Maghreb. Si tu es encore dans les limites de Mina avant le Maghreb, tu es obligé de rester le troisième jour et de jeter les pierres le troisième jour. Une fois qu'on est rentré à Mecca, celui qui n'a pas les moyens, il est mutamattir. S'il n'a pas les moyens d'égorger un mouton, il a une possibilité de jeûner trois jours pendant le hajj et sept jours quand il rentre chez lui. Pas le jour de l'Aïd, c'est pas permis. Ayam al-Tashriq, le 11e, 12e et 13e jour de Dhul-Hijja, il jeûnera trois jours d'affilée obligatoirement et il devra, quand il rentre chez lui, jeûner sept jours. Une fois qu'il a fait ça, son hajj est fini. Il ne lui reste plus qu'à profiter de faire des tawaf, des tawaf, des tawaf. Il n'est pas permis de sortir faire plusieurs umrah. Ça, c'est spécifique à Aïcha radiallahu anha parce qu'elle était rentrée en Qiran. Elle n'a pas pu faire un umrah plus un hajj. Elle a dit à Rasulallah, tout le monde est retourné avec un umrah seul et un hajj seul. Moi, je retourne avec juste une hajj. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, sors au dehors des limites de la Mecque. Refait l'ihram et vient faire un umrah. Ce qu'ils appellent aujourd'hui Masjid Aïcha. Ça, c'est permis que pour les gens qui sont dans son cas à elle. Non. Et on finit le dernier jour avant de partir. Au dernier moment, on fait tawaf al-wada', le tawaf d'adieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que la dernière chose qu'on fasse à la Mecque, c'est un tawaf. Donc on fait les 7 tours de rak'at derrière maqam Ibrahim, on boit zamzam et on fait nos préparatifs pour partir. Après tawaf al-wada', tu n'as pas le droit de faire du commerce, tu n'as le droit d'aller acheter que ce que tu as besoin pour le voyage. Par exemple, tu as besoin d'aller acheter de la nourriture pour voyager, t'achètes. Si après tawaf al-wada', tu commences à refaire tes courses, faire tous les magasins, tu seras obligé de refaire tawaf al-wada' avant de partir.